Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Le portrait d'aujourd'hui nous entraîne sur les mers puisque je vous propose d'évoquer un des plus grands marins que la France ait connu, le vice-amiral de Suffren. Stratège hors pair, vainqueur des Anglais aux Indes, Suffren a restauré la réputation de la marine française. Et pourtant, le personnage est loin de faire l'unanimité, peu commun dans son aspect et dans son comportement. En fait, Suffren dérange. Il est admiré par les uns, haï par les autres. Lascaz disait déjà qu'il était aimé de personne, mais apprécié et admiré de tous. Alors, quelle image retenir de Suffren? C'est ce que nous allons voir dans cette émission, en compagnie de l'amiral Rémy Monnac. Bonjour amiral.
Bonjour.
C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir au micro de Canal Académie.
C'est un grand plaisir pour
moi
de vous
parler. Et merci de faire l'aller-retour de Toulon pour venir nous présenter Suffren. Vous êtes donc l'auteur d'une biographie qui est parue aux éditions Talendier, une biographie de Suffren. Votre domaine de prédilection est la marine du XVIIIe siècle et de l'Empire, et votre précédent ouvrage consacré à la bataille de Trafalgar reçut le grand prix de la Fondation Napoléon. Mais revenons à Suffren et tout d'abord à la prononciation, puisque ce n'est pas Suffren, comme le disent beaucoup de Parisiens.
Vous avez tout à fait raison, et la marine qui a bénéficié de la tradition et de la continuité a toujours dit Suffren, tout au moins en français, parce que le Provençal Suffren prononçait son nom certainement avec l'accent provençal, je suis le bailli de Suffren. Mais Suffren, certainement pas. Et Suffren est attesté dans les écrits à plusieurs reprises, notamment lorsque le jeune Suffren arrive aux gardes-marines de Brest. Le secrétaire écrit son nom I-N, ce qui prouve bien que c'est la prononciation correcte qu'il faut utiliser. Donc nous dirons Suffren si vous voulez bien.
Mais bien entendu, alors après cette précision de prononciation, penchons-nous sur le personnage. Il naît en 1729. De quel milieu est-il issu?
Alors il était issu du milieu d'une noblesse parlementaire, mais les choses sont toujours très complexes et noblesse. Il descend à la fois de conseiller au Parlement de la ville d'Aix, mais également de la plus haute noblesse immémoriale des familles comme les Castellane ou comme les Forbin. Donc il descend aussi de la grande noblesse et il descend de la bourgeoisie marseillaise puisque sa mère est la fille du plus riche marchand armateur de Marseille, Bruny, qui donnera les Bruny d'Entrecasteaux, la famille de Bruny d'Entrecasteaux. Donc c'est un milieu mélangé, on peut dire, bonne noblesse parlementaire.
Alors maintenant, disons quelques mots de sa formation. À vous lire, on est très étonné de voir que sa formation est fort peu sommaire et qu'il se forme surtout sur le terrain.
Alors Suffren a une chance absolument extraordinaire, c'est qu'il entre dans la marine à l'âge de 14 ans à peu près, au moment même où la France, après 30 ans de paix avec l'Angleterre, reprend les hostilités avec notre plus vieil ennemi, notre plus fidèle ennemi. Et donc il va bénéficier, contrairement à ses prédécesseurs, d'une formation que je qualifie de formation à l'anglaise, parce que les Anglais étaient férus de formation pratique, beaucoup plus que nous qui avons toujours aimé la théorie. Et en temps de guerre, on n'a pas le loisir de laisser les jeunes gardes de la marine dans les salles de classe. On les embarque très vite parce qu'on a besoin d'eux sur les vaisseaux. Ce qui fait que Suffren n'aura à se reprocher, si je puis dire, que quelques mois dans les salles de classe à Toulon et à Brest plus tard.
Alors nous allons passer rapidement sur ses débuts sur mer. Alors je dirais que la première grande expédition à laquelle il participe et l'emmène vers le Canada. Que retenir de cet épisode?
Alors cet épisode profondément tragique, parce que c'est des expéditions qui sont terminées par des drames extrêmement cruels, non pas tant cette fois-ci à cause de l'ennemi anglais, mais à cause des conditions de vie à bord extrêmement rudes et de la méconnaissance que l'on avait de lutte contre le scorbut, qu'on a vu beaucoup plus tard maîtriser, mais à cette époque-là, de longs mois passés en mer amenaient des drames de santé absolument terribles, ce qui fait que cette expédition française arrive au Canada dans un état tellement lamentable que même sans rencontrer d'adversaire, elle est complètement mise à mal et les bateaux reviennent comme ils peuvent les uns après les autres dans des conditions terribles. Et c'est une leçon pour Suffren importante parce que toute sa vie, il sera un amiral extrêmement soucieux de la santé de ses équipages et des soins apportés aux malades et aux blessés.
Alors après le Canada, ça devait être les Antilles, mais finalement, ça sera la captivité en Angleterre.
Oui, alors après un combat homérique qu'il connaît à bord du Monarque, un combat complètement inégal où les Français parviennent à protéger un immense convoi venant du Canada et des États-Unis pour ravitailler la France et des Antilles aussi. Cet immense convoi sera sauvé, mais au prix du sacrifice d'un certain nombre de bateaux, dont le bâtiment sur lequel le jeune Suffren est embarqué à ce moment-là, Et c'est un combat dont il se souviendra toute sa vie, qu'il racontera très souvent comme un modèle d'héroïsme. Le commandant est tué, plusieurs officiers sont tués ou blessés. Le bateau se rend après des heures de combat et dans un état de délabrement total. Donc c'est pour lui une expérience très forte, effectivement.
C'est une expérience très forte qui lui vaut donc la captivité. Donc de là, sa haine pour les Anglais.
Certainement contribué à cette haine contre les Anglais, mais qui était, il faut bien le dire, assez largement répandue dans la marine française et de l'autre côté dans la marine anglaise. C'est une haine que je nuancerai un petit peu, qui n'excluait pas une admiration pour les méthodes de l'adversaire, pour son courage, pour sa bravoure, même si on déplorait un certain nombre de pratiques anglaises. Et ce n'est pas encore l'époque de la Révolution et de l'Empire où la haine devient idéologique. Les gens se considèrent comme des collègues qui travaillent dans un camp ennemi, mais qui savent s'apprécier. Et la paix revenue, on redevient ami assez facilement.
Alors en vous lisant, on est frappé du nombre d'expériences que connaît Suffren dans ses jeunes années, enfin dans ses débuts. Il va au Canada, il est capturé par les Anglais. Et après, il va y avoir cet épisode où il va être pendant 3 ans à Malte, puisque son père l'avait fait chevalier de Malte dans ses jeunes années.
Alors chevalier de Malte, effectivement, c'était un peu le sort des enfants, surtout des enfants cadets dans des familles où le fils aîné seul pouvait se marier et continuer la carrière des parents et la fortune de la maison. Mais les enfants, les cadets, étaient voués soit à l'église, soit à l'armée. Et Malte combinait les deux, puisque c'était des moines guerriers. Donc Suffren, sans qu'on lui demande son avis, évidemment, ainsi que son jeune frère d'ailleurs, va partir pour Malte, après avoir fait toutefois ses premières années.
Sa carrière dans la marine royale.
Dans la marine de guerre.
Oui, mais il ne refuse pas non plus, il aurait pu s'opposer au souhait paternel. Non, il choisit d'effectuer ses caravanes.
C'est une question que je me suis posée. Comment ces jeunes enfants, à qui on ne demandait pas leur avis du tout, accepter ou refuser cette carrière monastique malgré tout. Et je pense que, étant donné que dès leur plus jeune âge, on les habituait à l'idée qu'ils étaient chevaliers de Malte, qu'on les habillait en chevaliers de Malte, il y a des portraits qui en témoignent tout à fait, avec des tout jeunes enfants en robe encore, mais avec une petite épée et la croix de Malte fièrement affichée. Je pense que c'était pour eux naturel et qu'ils y allaient comme quelque chose d'évident, d'incontournable.
Alors l'épisode maltais est-il important dans la carrière de Suffren ?
Je pense que l'épisode maltais est important, mais pas de la manière dont il l'était dans les générations précédentes. Je pense au règne de Louis XIV, où beaucoup d'officiers de marine français ont fait leurs premières armes à Malte et se sont formés vraiment à Malte dans les combats qui étaient alors très durs contre les Turcs ou contre les barbaresques. À l'époque de Suffren, c'est déjà moins vrai, il y a encore des combats. Mais par contre, ce qui a marqué très fortement Suffren, c'est sa qualité de moine hospitalier. N'oublions pas que les chevaliers de Malte ont les deux volets, ils sont à la fois hospitaliers et guerriers. Et là, c'était encore quelque chose de très vivant. On faisait son service à l'infirmerie dans le merveilleux hôpital de Malte, qui était le fleuron de l'Europe à l'époque, ce qu'on faisait de mieux en Europe. Et Suffren, je pense, pleinement acquis ce souci des blessés, des malades. Il gardera toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, le souci de la santé des gens. Il veillera à ce que les hôpitaux soient correctement tenus et que ses médecins et chirurgiens travaillent le plus humainement possible.
Au niveau naval, une de ses missions à Malte sera la lutte contre la piraterie. Cela a-t-il influé après sa tactique navale ?
Je pense qu'il est difficile de dire que ça a influé sa tactique navale, parce que la tactique navale maltaise était extrêmement sommaire. C'était des gens très très courageux et qui prenaient tous les risques, mais ils savaient que foncer sur l'ennemi sans beaucoup de tactique, il a peut-être retenu cette vigueur,
ce courage
et la manière de mépriser le risque. Mais pas de savante tactique, sûrement pas.
Alors à son retour de Malte, il a un peu plus de 20 ans, et finalement son ascension n'est pas fulgurante. Il obtient son premier commandement à 33 ans et devient capitaine de vaisseau 10 ans après, en 1772. À quoi cela tient-il ?
Mais je pense qu'il n'a pas d'appui à la cour. Suffren n'a pas dans sa famille de soutien vraiment important, à une époque où les soutiens comptaient beaucoup. C'est uniquement ses mérites qu'il fait avancer. Il avance de manière tout à fait honorable. Comme vous le dites, ce n'est pas une avancée fulgurante. Et il réussira à se faire connaître, non seulement par ses exploits guerriers, mais aussi parce qu'il a beaucoup de culot. Il prend l'habitude, très jeune, d'écrire directement au ministre. Et comme il écrit fort bien et des choses fort intéressantes, des rapports un peu sur tous les sujets, il est passionné par un tas d'affaires, aussi bien sur la technique navale, la tactique, la santé des équipages, la manière de lutter contre les barbares. Il y a des quantités de mémoires de Suffren qui sont envoyées au ministre, reçu avec bonheur par les ministres qui lui répondent très poliment, et je pense qu'il se fait connaître un peu de cette manière-là, suppléant ainsi l'absence de soutien qu'il avait dans le corps des officiers de marine.
Alors avant d'évoquer la campagne des Indes qui correspond au sommet de sa carrière, évoquons son rôle et l'expérience qu'il acquiert lors de la guerre d'indépendance. Il est alors commandant du vaisseau Le Fantasque, alors que le commandement de l'escadre, lui, est assuré par le vice-amiral d'Estaing, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette campagne?
Je pense que c'est une campagne très très importante parce que Suffren va pouvoir, il est simple capitaine de vaisseau comme vous le dites, mais Destin qui a beaucoup de défauts a pourtant une immense qualité, c'est qu'il est capable de reconnaître la valeur parmi ses officiers et que très vite il décèle chez Suffren quelque chose qui n'existe pas chez les autres, quelque chose de très fort, une capacité d'entreprendre, d'agir très grande. Et il va lui confier tout au long de cette campagne, qui a des aspects très brillants, mais aussi des aspects assez calamiteux, il faut bien le dire, il va lui confier des responsabilités de plus en plus grandes. Il va lui donner d'abord un vaisseau à commander en plus du sien, puis deux, puis trois, puis une petite division, etc. Ce qui fait que pendant toute cette campagne, Suffren va apprendre, ce qui est très important pour un officier général qui va être bientôt, à commander non seulement son vaisseau, mais un groupe de vaisseaux, et les faire travailler ensemble.
Alors que le vice-amiral Destin, lui, venait finalement du monde terrien.
C'est un peu les anomalies de l'Ancien Régime, les choses assez extravagantes. Destin, c'est un officier de l'armée de terre qui, au cours de la guerre de Sept Ans, avait un peu navigué sur mer, mais à titre personnel, il avait armé des vaisseaux aux Indes pour faire la guerre aux Anglais. Comme il était d'une très très haute famille, de la très haute noblesse d'Auvergne, il était colonel à 19 ans. Il avait été lieutenant général, donc officier général déjà de haut grade dans l'armée de terre. Il est bombardé, lieutenant général dans la marine. Il arrive dans la marine avec plusieurs étoiles sur le manche, donc sans avoir jamais servi dans la marine de guerre. Ce qui est évidemment très mal accepté par ses pairs et par les officiers qui sont sous ses ordres. Suffren est un homme sans préjugés, donc il accepte ça. Il fait des reproches à Destin, mais pas ce reproche-là. Il lui reproche par contre de ne pas avoir un sens marin très affirmé.
Nous allons passer maintenant à l'évocation de la campagne des Indes, mais après une courte pause, si vous le voulez bien.
Zizim, ou plutôt Cem, était le fils du sultan Mehmet II et d'une princesse serbe chrétienne. Son frère Bajazet lui ravit le trône. Oyez l'histoire d'un prince turc exilé dans la Creuse. Cet incroyable épisode historique donne prétexte à notre bibliophile Bertrand Gallimard Flavigny de vous conter les amours de la fée de Sassenage. Le prince Zizim et la douce Philippine, une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes toujours en compagnie de l'amiral Rémy Monnac pour évoquer le vice-amiral Suffren. Nous allons maintenant nous intéresser à l'épisode le plus illustre de la carrière de Suffren, la campagne des Indes, que vous qualifiez, Rémy Monnac, d'un des plus glorieux chapitres de l'histoire navale française. Alors commençons par replacer cette campagne, quel en est le but et de quelle force dispose Suffren?
Cette campagne se place au moment très important de la guerre d'indépendance américaine, où on va faire un effort aux États-Unis avec l'escadre de l'amiral de Grasse qui va partir en renfort pour aider les insurgés américains, et où on fait, parallèlement à cet effort principal, une diversion aux Indes qui a plusieurs buts. Le premier, c'est de sauver la colonie du Cap de nos alliés hollandais qui risquent fort de tomber aux mains des Anglais, ce qui aurait des conséquences stratégiques très importantes. Et la deuxième, c'est d'essayer de troubler le jeu britannique aux Indes, de frapper l'Angleterre dans sa richesse, puisqu'elle tire beaucoup de son économie, dépend très largement du commerce avec les Indes. On n'espère pas reprendre pied aux Indes et refaire un empire français aux Indes. Par contre, les ennemis des Anglais, qui sont donc nos alliés, les princes indiens rebellés contre l'Angleterre, on espère chasser les Anglais des Indes et obtenir une deuxième indépendance. L'indépendance des États-Unis va être acquise et on aurait pu aussi obtenir l'indépendance des Indes si les affaires avaient marché tout à fait bien. Vous m'avez demandé quelles étaient les forces utilisées pour cette mission.
Pardon de vous interrompre, mais vous dites, puisque cette intervention prend place en 1781, et vous dites que c'est l'apogée à ce moment-là de la marine française.
Oui, alors ça, j'étais très frappé. Je me suis souvent posé la question à quel moment notre marine a atteint son sommet. Je pense que c'est ce moment, ce mois de mars 1781, où se prépare à Brest l'expédition qui sera commandée par De Grasse et qui va amener, avec la victoire de la Chesapeake, la victoire de Yorktown, la capitulation anglaise et l'indépendance des États-Unis. Donc la marine française joue un rôle absolument fondamental à ce moment-là. Et cette campagne glorieuse des Indes dont nous allons parler avec Suffren. Donc il faut imaginer cette rade de Brest splendide, couverte de voiles, avec ces deux escadres qui apparaissent en même temps. Et c'est le point d'orgue, je pense, de notre marine.
Alors, pour en revenir à ma question initiale, de quelle force dispose Suffren? De quoi se compose son escadre?
Alors l'escadre de Suffren est une petite escadre de 5 vaisseaux simplement, mais qui doit se renforcer à l'île de France, qui est maintenant l'île Maurice, où nous avons une autre escadre à peu près de la même force, pour atteindre une douzaine de bateaux lorsque les deux escadres seront réunies à l'île Maurice et partiront pour les Indes.
L'escadre française est-elle inférieure ou supérieure à l'escadre anglaise?
Alors, au début, lorsque Suffren arrivera aux Indes avec ses 12 vaisseaux, il disposera pendant quelques mois d'une supériorité numérique sur l'escadre anglaise. Mais cette supériorité va rapidement s'annuler et s'inverser, puisqu'à la fin de la campagne, le dernier combat de Suffren, il va lutter avec 15 vaisseaux contre 18 anglais.
Une supériorité numérique au départ, mais pas au niveau de la technique.
Alors, le grand problème que va rencontrer Suffren, là, jusqu'à présent, on a parlé surtout de ses qualités, mais il faut bien parler aussi des ombres chez ce personnage. Son grand problème, c'est qu'il a beaucoup de mal à obtenir l'adhésion des capitaines qui sont sous ses ordres. Il a quelques très bons amis dans la marine, et dans la campagne précédente avec Albert de Ruyon, il a fait des choses merveilleuses. Il aurait aimé garder cet officier avec lui. Mais dans cette campagne des Indes, et notamment avec les officiers qu'il retrouve à l'île de France, il n'arrive pas à obtenir leur adhésion, et donc les ordres qu'il donne sont mal compris et forcément mal exécutés. Il y a certainement du tort. Une partie de ces capitaines qui ne sont pas de grande qualité, qui sont des gens qui ont longtemps vécu aux colonies et qui se sont enrichis et qui ne pensent plus à leurs affaires qu'à combattre. Mais il y a malgré tout une incapacité de Suffren à les réunir, à les convaincre, à les fédérer, comme fera Nelson avec sa bande de frères. Si Suffren a des idées très d'avant-garde sur le plan tactique et stratégique, par contre, dans l'exécution, il n'a pas le charisme de Nelson pour obtenir l'adhésion des gens autour de lui. Ce qui fait que ses succès seront toujours des demi-succès simplement. Sa volonté, c'est d'écraser la flotte anglaise une fois pour toutes, d'en finir avec elle et de pouvoir à ce moment-là remplir les missions qui lui sont confiées. Mais là, il n'y arrivera pas parce que ses ordres seront toujours assez mal exécutés.
Alors, 5 combats majeurs constituent cette campagne des Indes. Le premier est à Sadras et en effet, vous dites, c'est l'histoire d'une manœuvre géniale ou du moins très novatrice qui ne fut ni correctement ordonnée, ni bien comprise, et donc fort mal exécutée. Que se passa-t-il à Sadras ?
Alors Sadras, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'on voit une idée géniale de Suffren qui dit, de son temps, il était convenu que 2 escadres combattaient sur 2 lignes de fil parallèles, se canonnaient longuement, et puis on espérait que l'une arriverait à avoir le dessus sur l'autre, mais on n'espérait pas écraser complètement l'ennemi, en détruire l'ennemi. Et Suffren, lui, très justement, estime qu'en concentrant l'ensemble de ses forces sur une partie seulement de l'escadre ennemie, on peut obtenir des résultats beaucoup plus probants et beaucoup plus concluants. Et dans la pratique de Sadras, son idée, les Anglais ne sont que 9, il a 12 vaisseaux. Son idée, c'est d'encadrer la queue de la ligne anglaise, les 6 derniers vaisseaux de la ligne anglaise, par 2 fois 6 vaisseaux français de chaque bord, ce qui fait que chaque bateau anglais, dans son idée, serait combattu par 2 vaisseaux français et donc écrasé. Et il ordonne cette manœuvre qui n'est pas comprise, qui est très très mal exécutée. Et il y a simplement 2 derniers vaisseaux de la ligne anglaise qui sont vraiment solidement attaqués, qui manquent d'ailleurs être pris ou coulés. Mais le résultat est tout à fait inférieur aux espérances.
Et c'est effectué dans une grande confusion. Et
c'est exécuté dans une grande confusion avec une mauvaise volonté du plus ancien des capitaines de Suffren qui aurait dû prendre en main une partie de l'exécution de cette manœuvre et qui reste d'une passivité totale, n'ayant pas compris ou faisant semblant de ne pas avoir compris la manœuvre ordonnée par Suffren.
Alors, lors du deuxième grand combat qui a lieu cette fois-ci au large de Ceylan, près de l'îlot Provédien, la Suffren va changer de tactique, il va se ranger à la tactique traditionnelle. Cela va-t-il changer les choses ?
Alors non, on sent un va-et-vient chez Suffren entre l'idée d'appliquer ses idées nouvelles, de concentration de force, et puis le sentiment qu'il n'est pas compris. Ce qui fait qu'il alterne les procédés classiques et les procédés plus novateurs. Quand il adopte les procédés classiques, ça ne marche pas très bien non plus, parce que dans ces procédés-là, il faut aussi une grande sûreté dans l'exécution des manœuvres pour rapprocher son escadre de l'escadre ennemie. Or, il a des voiliers qui sont de vitesses très différentes. Il est assez brouillon dans ses ordres, il multiplie les ordres, il multiplie les signaux de manière un petit peu exagérée. Comme les gens ne comprennent pas toujours ce qu'il veut faire, il y a un certain désordre dans ses combats. Et ce qui fait que le résultat est assez moyen, assez médiocre, même si il réussit malgré tout dans chacun de ses combats à porter des coups très rudes à l'ennemi, et que c'est une époque où les canonniers français sont efficaces, tirent vite et bien, et les Anglais ont des pertes considérables et des avaries considérables sur leurs vaisseaux, ce qui sera beaucoup moins le cas dans la période de la Révolution et de l'Empire, où notre marine est d'un degré beaucoup moins efficace qu'à cette époque-là.
Alors, 2 engagements ont lieu après, Negapatam et Trincomalee. Là encore, les pertes sont très importantes sans que ça soit décisif.
Voilà, ce n'est jamais décisif. Par contre, ça élimine la flotte anglaise pendant un certain temps qui doit se réparer et ça permet à notre escadre de survivre, de porter secours à notre corps expéditionnaire qui est aux Indes, de se renforcer de ce corps expéditionnaire quand on en a besoin. Le côté génial de Suffren, c'est de, alors qu'il ne dispose aux Indes d'aucun secours, d'aucune logistique, contrairement aux Anglais qui ont des bases beaucoup mieux approvisionnées, il arrive en vivant sur l'ennemi, en faisant des prises, grâce à nos alliés hollandais avec qui il entretient des relations excellentes, il arrive à faire vivre son escadre, à la faire combattre dans des conditions tout à fait extravagantes, renforçant avec l'armée de terre ses bateaux, donnant ses marins pour renforcer l'armée de terre lorsque c'est nécessaire, avec une grande souplesse et une grande débrouillardise.
Débrouillardise, oui, vous insistez beaucoup là-dessus. Alors la dernière bataille, la plus glorieuse, je dirais, est celle de Gondelour. Les forces françaises sont inférieures aux forces anglaises, et pourtant donc Suffren réussit à l'emporter, et vous précisez que pour une fois, le vent et la mer sont favorables aux Français. Mais est-ce suffisant ?
Non, ça n'aurait pas été suffisant si là, Suffren arrivait au bout de cette campagne, après avoir renvoyé en France un certain nombre de capitaines qui ne faisaient pas l'affaire, après avoir obtenu malgré tout des succès, acquis une gloire déjà importante et un prestige vis-à-vis de ses officiers. Pour une fois, ses ordres sont exécutés avec plus de précision et il a pris l'ascendant moral sur l'amiral anglais Hughes, qui l'a combattu 5 fois et qui maintenant est de plus en plus prudent quand il rencontre les Français. Il prend l'ascendant moral et après un combat qui n'est pas une victoire écrasante, mais qui contraint l'ennemi à se retirer alors qu'il est supérieur.
Et il faut peut-être dire ici 2 mots d'ailleurs. Vous parlez de l'ascendant qu'il a réussi à obtenir sur son adversaire anglais. Ça vient aussi du physique et de la personnalité de Suffren. Nous ne l'avons pas encore évoqué.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison de parler de Suffren, qui est un personnage tout à fait hors du commun, avec un très fort embonpoint. Suffren me fait penser de manière irrésistible à Raymond Devos, de ces hommes extrêmement agiles, corpulents, mais agiles et très rapides, très vifs. Et donc, c'est un homme qui cultive, il faut bien le dire, ça c'est un aspect qui ne contribue pas à faciliter ses rapports avec ses officiers. Il cultive un côté débraillé et braillard en même temps, donc c'est un personnage vociférant avec ses injures en provençal, parce qu'il parle provençal de manière courante avec son équipage. Donc cet homme de débraillé et hurlant, qui est tout à fait l'opposé du flingue britannique qu'on peut imaginer chez ses adversaires, il enthousiasme ses hommes, il est adoré par ses officiers mariniers, c'est-à-dire les sous-officiers de la marine et les matelots. Par contre, il choque beaucoup de ses officiers par ce côté, il faut bien le dire, un peu démagogue qu'il a dans ses manières de commander et de se comporter.
Alors le succès de Gondelour lui assure la gloire, largement fêté à son retour en France, il est récompensé par le roi. Il meurt 4 ans après son retour à Paris, puisque très tôt, il va avoir des crises de goutte. Donc les dernières années de sa vie, il sera ambassadeur de l'Ordre de Malte. D'ailleurs, vous montrez qu'il ne s'agit pas que d'une charge honorifique, qu'il s'engage vraiment pour son ordre. Nous n'avons malheureusement pas le temps de tout évoquer. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots de sa mort, puisque la légende en a inventé une autre, finalement.
Voilà, c'est dommage pour la légende, effectivement, qui était belle de faire mourir Suffren dans un duel. Alors, on le faisait mourir. La personnalité auquel il était opposé varie selon les auteurs, mais souvent, c'est un de ses officiers qui l'avait si mal servi pendant la campagne des Indes et qui avait été renvoyé en France, qui se vengeait avec ce duel. En fait, il n'en est rien. Je pense que les recherches historiques qu'on a pu faire ne laisse pas de doute sur ce plan-là. Suffren est mort de sa belle mort. Bon, il était très corpulent. Sur un bateau, il faisait de l'exercice et il avait réussi à conserver une santé assez florissante. À terre, il a une table absolument abondante, une cave gigantesque. Donc, il fait certainement des tas d'excès de nourriture et de boissons. Et il devient énorme et apoplectique. Il a la goutte, il a un érysipèle. Enfin, sa santé s'altère. Et on est au mois de décembre 1788. Il fait très froid. C'est au moment de l'Assemblée des Notables. Suffren, qui a son hôtel à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, part pour Versailles assister à une séance de l'Assemblée des Notables. Il avait une très bonne amie à Versailles en la personne de Madame Victoire, qui était la fille de Louis XV, donc la tante de Louis XVI. Une excellente dame, une vieille fille un peu très gourmande, comme Suffren lui-même, et qui adorait entendre Suffren raconter ses campagnes. Donc il se retrouve dans les salons de Madame Victoire. Madame Victoire lui trouve mauvaise mine, fait appeler son médecin. Et le médecin, qui ne connaît pas les problèmes précis de Suffren, voyant cet homme obèse et rougeoyant certainement, ne trouve rien de mieux que de lui faire une saignée immédiatement. La saignée qui, dans le cas de la goutte, est très fâcheuse. Suffren perd plus ou moins connaissance. Deuxième saignée qui finit de lui faire du mal. Et on le remet, comme il n'est pas question qu'une mort intervienne dans les salons d'une princesse du sang. Donc on le renvoie dans sa voiture à Paris et il mourra 2 jours après chez lui dans son lit.
Alors nous arrivons au terme de notre émission. Vous concluez votre ouvrage en mettant en lumière les qualités incontestables de stratège de Suffren, mais vous semblez finalement beaucoup plus sceptique sur le tacticien. Donc était-ce là sa faiblesse ?
Je pense que c'était là, oui. Autant sur le plan de la stratégie, on ne peut qu'être très très admiratif, parce que c'est un homme qui a des idées extrêmement larges et qui a compris que non seulement l'aspect militaire des choses importait, mais également tous les aspects économiques, diplomatiques, psychologiques. Donc c'est un homme qui a un esprit très vaste et qui avait très bien compris qui dans sa stratégie utilise tous les modes de stratégie possibles et qui en plus a des qualités de diplomate qui est très importante.
Que nous n'avons pas évoqué.
On n'a pas évoqué, mais il arrive à obtenir l'appui des Hollandais de manière très efficace. Il y a un entretien avec le Nabab Haïder Ali et Tipu Sahib, son fils, à plus tard, des relations d'une très grande cordialité qui jouent un rôle prépondérant dans le succès de cette campagne. Donc, il entretient aussi avec la marine et l'armée de terre, c'est parfois difficile à faire marcher ensemble. Il entretient des relations tout à fait excellentes. Donc, sur le plan stratégique et diplomatique, c'était vraiment un très grand monsieur. Par contre, le tactique, eh bien, c'est le problème de la fédération des énergies autour de lui, de ses capitaines qui n'arrivent pas toujours à fédérer. Il choque son milieu par son comportement, qui n'est pas accepté. Et comme c'est un homme qui est très orgueilleux, il ne veut absolument pas faire des efforts dans ce sens-là. Il en rajoute plutôt, ne faisant qu'accentuer ce divorce entre l'esprit un peu étroit des officiers de marine de cette époque et ce personnage hors du commun.
Merci infiniment, amiral, pour ce beau portrait de Suffren. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre ouvrage, donc aux éditions Talendier. Je précise qu'il est doté d'outils très précieux pour des non-marins, comme les données de base de la tactique navale ou encore les nombreux schémas et cartes qui accompagnent votre récit. Merci infiniment, au revoir à tous.
Merci à vous.